Chapitre 6. Le zèle, comédie en quatre actes en prose par messieurs Saint-Adolphe et Romain Caldas, allait être terminé et présenté à monsieur de Chilly. Monsieur Deslauriers, qui n'est pas un collaborateur pour rire, avait vigoureusement pioché. Il avait bel et bien mis pour sa part deux mots plaisants qui n'étaient pas drôles du tout. De plus, il avait recopié de sa plus belle écriture les deux premiers actes. Il a achevé la copie du troisième un matin lorsque Callas entra. « Cher Adolphe, s'interdit le jeune homme, nous n'en finirons jamais. Si vous me laissez dans le bureau où je suis, il faut absolument me mettre ailleurs. Ah, si je pouvais te faire travailler dans mon propre bureau, dit tristement Saint-Adolphe, je voudrais faire concurrence à Sardou et devenir le marquis de Carabas du boulevard. Malheureusement, c'est impossible. Et pourquoi ? Demanda Romain. Parce que c'est pas l'usage et que l'usage est le tyran de l'équilibre. Ah, tu ne connais pas nos bureaucrates, mon ami. L'usage les guide comme le caniche guide l'aveugle, et ils vont en aveugle, en effet. L'usage, pour eux, c'est le transparent qu'on donne aux enfants qui s'exercent à écrire. La routine est leur foi. Ils ont pour l'innovation l'horreur qu'éprouve pour l'eau la bête enragée. Avant de faire la moindre broutille, l'employé se gratte la tête. Vous croyez qu'il réfléchit ? Non ! Il se demande. Cela s'est-il déjà fait ? Cela s'est-il fait ? Voilà le grand mot. Vous venez proposer quelque chose de grand, de beau, d'utile, d'indispensable. On vous demande d'abord. Cela s'est-il fait ? Non. Alors, serviteur, vous insistez, vous prouvez qu'il fait jour à midi au mois de juin. À quoi bon ? Cela ne s'est jamais fait. Aussi, chaque année, dans les mêmes conditions, on voit se reproduire les mêmes boulettes. Cela s'est fait, cela se fera. Tout est gravé, stéréotypé, cliché. Vous avez, vous, une lettre de 10 lignes à écrire, vous prenez la plume, votre sous-chef arrive. Malheureux, que faites-vous, dit-il. Il y a un précédent. À quoi bon, répondez-vous. La chose est simple, comme bonjour, j'aurai fini dans 5 minutes. Mais cela n'est pas ainsi qu'on procède, réplique le sous-chef. Il y a un précédent, il faut le trouver. On cherche, on fait fouiller 20 bureaux, 400 cartons, on remue des dunes de poussière, on dérange 50 employés, et on ne trouve rien. Et que fait-on alors ? Demanda Caldas. Bon, on en revient à votre première idée. La lettre est écrite en 5 minutes. On a perdu 3 jours, mais on a sauvegardé la tradition administrative. Prenez patience, avait dit M. Deslauriers à Caldas. Restez encore quelque temps dans la pièce où vous êtes. Je vais m'occuper de vous et tâcher de vous bien caser. Infortuné chef de bureau. Il ne réussit pas à obtenir pour Romain la place qu'il demandait, mais on lui en donna une à lui-même, qui ne demandait pas. Il fut nommé sans avancement au bureau de la dette. C'est à l'administration de l'équilibre qui est très pauvre, le moins chargé de tous les services. On le considère comme un cul-de-sac et on y fourre les chefs dont on est mécontent. M. Deslauriers, qui se flattait d'arriver au poste de chef de division, fut frappé au cœur de cette disgrâce. Il poussa les hauts cris, se remua, réclama. Trop tard. Le pape n'est pas seul infaillible. Son Excellence avait signé. Il voulut au moins savoir pourquoi on l'envoyait chez les Sarmates, et après une enquête souterraine, il apprit toute l'histoire de ce terrible coup de Jarnac. M. Deslauriers, tandis qu'il sommeillait dans la quiétude, avait pour sous-chef un homme que l'envie empêchait de dormir. Ils avaient toujours été fort bien ensemble, car le malheureux chef ne soupçonnait même pas le caractère côteleux de son subordonné. Cet envieux nommé Cluche, qui réussit par longtemps à se faire passer pour un brave homme, est par excellence le supérieur sournois. Affable et traitant en apparence son monde sur le pied de la camaraderie, il se fait un plaisir de desservir dans l'ombre les naïfs qui ont eu l'imprudence de se fier à lui. Qu'un employé se mette dans son tort, il excuse et le rassure, mais à la fin du mois, il charge son dossier d'une note accablante. Il accorde volontiers la permission de s'absenter, et si l'on s'absente, il ne manque pas de faire un rapport. C'est l'homme des coups de couteau dans le dos. Ce Cluche s'ennuyait d'être sous-chef. Il avait plusieurs fois fait valoir ses droits à l'avancement. Il ne lui en était rien revenu. C'est alors qu'il jeta les yeux sur la place de M. Deslauriers. On appelle cela à l'équilibre convoiter les souliers d'un mort. Certaines gens ne sont à l'aise que dans ces chaussures-là. Cluche imagina une combinaison assez ingénieuse. Il dressa ses batteries et un beau matin, l'administration s'aperçut que le chef du bureau de la dette avait depuis 11 ans dépassé la limite d'âge. On s'empressa de réparer cet oubli et on mit l'oublié à la retraite. L'administration cherchait sur son livre noir un chef mal noté à envoyer en disgrâce, lorsqu'elle apprit à propos que Deslauriers, non content de compromettre dans les coulisses la dignité de l'administration, collaborait avec ses propres employés et ce, pendant la séance, à verrou tiré. « Voilà l'homme à sacrifier !» se dit-elle. Et le jour même où était signée la déportation du vaudevilliste, Cluche arrivait juste à point pour demander sa succession. Il l'aurait obtenue sans un de ces coups de fortune qui renversent les plans les plus savamment conçus. Un protecteur influent qu'il avait mourut dans la nuit d'une indigestion. L'affaire s'était ébruitée dans l'intervalle et deux autres sous-chefs arrivèrent à la curée. Oh, l'administration fut bien embarrassée. Les protecteurs des deux nouveaux venus avaient juste autant de crédit l'un que l'autre. Devant deux employés d'un mérite si parfaitement égal, on prit un moyen terme, et un quatrième qui n'avait rien demandé et qui n'y s'y attendait guère, eut la place. Il se trouva qu'il la méritait. Cette promotion mit sans dessus dessous le bureau des duplicata. M. Castellouze, nouveau chef, tenait à faire autrement que son prédécesseur. Ce n'est pas qu'il changea rien au fond, mais il modifia singulièrement la forme. Là où on se servait de fiches, il employa des registres, et réciproquement. Il fit plus. On écrivait sur les répertoires les chiffres d'ordre à droite et à l'encre rouge. Il décréta qu'on les écrirait à gauche et à l'encre bleue. Ces réformes si radicales firent crier les mauvais esprits. En dépit de la routine, tous les chefs en agissent ainsi à l'équilibre, afin d'écrivain au travail qu'ils dirigent un caractère de personnalité. M. Castellouze, l'homme aux chiffres à gauche, n'est pas le premier venu. Il a su se créer dans l'administration la renommée d'un spécialiste. C'est l'homme des affaires litigieuses, des créances douteuses, des négociations délicates. C'est au bureau qu'il vient de quitter, le service des recouvrements, qu'il a pris l'habitude de considérer le public comme un gibier. Il chasse, pour le compte de l'administration, avec le désintéressement du chien bien dressé, qui rapporte la perdrix dont il n'aura même pas les os. Il n'est pas de Normand madré d'avouer retort qu'il ne puisse rouler sur son terrain. Et il ne s'en fait pas faute. Autrefois, au début de sa carrière, le zèle de Castelluz était tout politique. Quand il avait fait rentrer dans la caisse de l'administration 1 franc 10 centimes sur lesquels elle ne comptait pas, quand il avait découvert la fraude d'un administré, il s'en réjouissait comme de titre d'un avancement. Avec le temps, il s'est passionné, et ce qu'il en fait maintenant n'est plus du tout dans l'intérêt de son ambition ou dans celui de l'État. Il agit pour son plaisir personnel. Il fait de l'art pour l'art. Mais quel flair, quelle subtilité, quelle ardeur! Un rien le met sur la trace, et quand il tient une piste, arrive toujours jusqu'au gîte. Oh, qu'il est heureux quand il a levé un lièvre, heureux quand il l'a forcé. Le lièvre, c'est le débiteur. Et il ne s'en prend pas seulement aux affaires présentes. Il remonte dans le passé à 10 ans, 15 ans. Il remonterait au déluge sans la loi sur la prescription. Il fouille les vieux dossiers, se roule dans la poussière des cartons oubliés. Et ce n'est jamais en vain qu'il bat ainsi le passé. Son sens de chasseur ne le trompe jamais. Il évente des fumées insaisissables pour tout autre, et comme l'ogre, il dit d'un ton joyeux « ça sent la chair fraîche !» Et le débiteur, qui dormait paisible sur une fraude vieille de 10 ans, est tout surpris un matin de voir arriver un avertissement qu'il engage à se présenter dans la huitaine au bureau pour se libérer. Pour nombre d'employés qui ne font pas leur devoir, il fait, lui, plus que son devoir. Il outrepasse ses droits, souvent au mépris de la justice. Il abuse de l'ignorance de l'un, de la faiblesse de celui-ci et de l'incurie de ce troisième. Il prie, il menace, il est impitoyable. Et pour peu que l'administration ne soit pas lésée, il lèse au besoin le bien public. On connaît bien son penchant à l'équilibre. Et un chef de division qui, comme M. Dupin, cultive le calembour, disait en parlant de Castelluz, il a le regard fisque. En réalité, Castelluz a l'œil de l'oiseau de proie. Son nez est brusqué comme le bec de l'aigle. Il a la dent blanche et pointue du carnassier. Ses aptitudes morales ont modifié son physique. Il a la tête fureteuse et des allures de limier. Il ne marche pas, il quête. Sa narine mobile semble prendre le vent. Quand il se pose, il tombe en arrêt, la tête allongée en avant, les épaules infléchies, les jambes légèrement ployées sur le jarret, les bras prêts à saisir la proie. Malgré toutes ses qualités de race, les capacités de Castelluz ne s'élèvent pas au-dessus d'un certain ordre. Il a les vues bornées, comme tous les gens qui se passionnent. Il est entêté comme les hommes à idées fixes. En dépit du mouvement qu'il se donne et des services qu'il rend, on ne considère pas en haut lieu comme un des directeurs de l'avenir. C'est de lui que le ministre disait « Il bat des ailes, mais il ne vole pas !» Le passe-droit dont M. Delaurier avait été victime fit à Caldas le plus grand tort. Quand on est employé à l'équilibre, on commet une faute grave si on se lie d'amitié avec un autre employé, quel qu'il soit, supérieur ou subalterne. Jamais on ne partage en effet la bonne fortune de cet ami si la faveur enfle ses voiles, et on est toujours éclaboussé par sa disgrâce s'il vient à sombrer. Caldas a pris cette belle maxime d'un jeune commis, fils d'un garçon de bureau, qui avait été élevé par son père dans la crainte de son excellence et de la hiérarchie. Oh, c'était un bon père, ce garçon de bureau, et surtout un homme convaincu. Du jour où son fils fut nommé commis, il le salua dans la crue et ne lui parla plus qu'avec vénération. La hiérarchie avec la tradition, voilà les deux pivots de l'équilibre. Aussi l'administration s'efforce-t-elle de multiplier entre tous les grades des lignes de démarcation, et c'est elle-même autant que l'orgueil personnel qui creuse un abîme entre le supérieur et son subordonné. Le caractère national aussi y aide beaucoup, et le Français, qui est fou d'égalité, est bien aise d'avoir quelqu'un salué avec déférence, à la condition d'avoir quelqu'un à regarder avec mépris. La politesse jette une blanche sur ce gouffre qui sépare deux hommes d'un grade différent, mais c'est une planche pourrie qui rompt au moindre effort. Quelle que soit l'urbanité de l'un et de l'autre, dans la rue, à table, dans un salon, vous distinguerez à coup sûr le chef de son inférieur. La familiarité de ce dernier, quoi qu'il fasse, aura quelque chose de courtisanesque. Ce ne sera qu'une nuance, mais on pourra la saisir, et l'intimité de l'autre aura toujours l'air d'une condescendance. Entre les hommes, cependant, il faut un observateur pour deviner ces sous-entendus. Mais de femme-femme, quelle hauteur d'un côté, quelle humilité révoltée de l'autre. En dehors de l'équilibre, il y a tout un ministère en jupon. Il y a Madame la directrice et Madame la chef de division, la chef de bureau et la sous-chef. Le reste ne compte pas. On invite parfois la femme du commis principal qui, ce jour-là, met sur son dos 3 mois des appointements de son mari. Mais c'est une exception. Quant aux commis et co-expéditionnaires, on a soin, si on les invite, d'oublier mesdames leurs épouses. La hiérarchie féminine est toujours une puissance, et l'employé de l'équilibre arrivé par les femmes prouve que les jeunes gens qui vont dans le monde n'ont pas tort. Par malheur, le beau sexe est mauvais juge des capacités, et les dignitaires qu'il fait ne pèsent souvent que de mine. Ce n'est pas au théâtre seul que l'emploi des jeunes premiers va s'effaçant de jour en jour. Caldas, qui fréquentait peu les salons administratifs, ne put observer ces choses que de loin. Il n'espérait point arriver par les femmes. Comme il visait haut, cependant, il cherchait à se rendre bien compte de tous les rouages de l'immense machine bureaucratique. À ses instants perdus, il la démontait, cette machine, pour son instruction particulière, à peu près comme on démonte un tour de broche. Il y découvrit un mouvement très simple, fonctionnant très régulièrement, mais surchargé et entravé par beaucoup de ressorts inutiles et d'engrenages superflus. Peut-être l'administration n'a-t-elle pu éviter ces 1001 complications dans son mécanisme. Dans les bureaux, qui véritablement sont restés les mêmes depuis Colbert, il s'est toujours trouvé des hommes qui ont su exploiter à leur profit les besoins du moment. La nécessité passée, le bureau créé reste, et pour lui donner alors une apparence d'utilité, on détourne les affaires, on les y fait passer, à peu près comme on fertilise un champ en saignant une rivière. Le nombre toujours croissant des services tient encore à deux causes. À la manie, à la petite bourgeoisie, de pousser ses enfants dans l'administration. Elle croit leur avoir donné un état libéral quand elle leur a posé une plume derrière l'oreille. Le négociant enrichi s'imagine grandir dans son héritier quand il a réussi à le faire entrer au ministère. Ce fils ira dans le monde officiel, il sera un personnage. Et la croix d'honneur, il est sûr de l'avoir dans un temps donné. Les ministères assiégés se défendent comme ils peuvent. Ils multiplient les obstacles devant leurs portes. Ils font tout pour décourager. Ils exigent des titres nouveaux. Ils augmentent chaque année la difficulté des examens. L'ardeur ne se ralentit pas. Cependant, les ministères semblent crier « Bourgeois mesquins, mais gardez donc vos enfants !» N'en savez-vous donc que faire? L'agriculture manque moins de bras que de têtes. L'industrie a besoin de renforts. Le commerce va croissant tous les jours. Que me chantez-vous donc avec votre profession libérale? L'homme qui gagne 6 000 francs par an dans un bon métier est financièrement plus riche que l'employé appointé à 10 000. Je ne peux pas vous enrôler tous, il faut bien qu'aux administrateurs, il reste quelques administrés. L'autre cause provient de l'esprit de défiance naturel au peuple français. Ce gros mot de concussion est un épouvantail ruineux. Lui qui admire la bureaucratie voit toujours dans ses cauchemars des employés puisant à pleine main dans les caisses publiques, et pour se délivrer de cette obsession, il a multiplié le contrôle à l'infini. Il paie tous les ans 15 millions dans la crainte qu'on ne lui prenne 25 centimes. Aussi, l'administration française est la plus régulière et la plus honnête qu'il y ait au monde. Ce résultat coûte un peu cher, mais la France est assez riche pour payer sa vertu. Pour en revenir à l'administration de l'équilibre, elle est minutieuse et fouilleuse, chercheuse, méticuleuse, soigneuse, éplucheuse, ombrageuse, fureteuse, contrôleuse, mais par-dessus tout consciencieuse. Elle est aussi tracassière, paperassière, écrivassière, coutumière, cartonnière, mais avant tout régulière. Pour obtenir la solution de la moindre affaire, il y faut 20 visas et 40 contrôles. Le solliciteur est renvoyé de Pilate à Caïphe. Chacun reconnaît qu'elle est juste, mais personne n'épouse sa cause. Tous les employés s'en lavent les mains, au figuré, et sa passion dure parfois des années entières. S'il se fâche, ce bon solliciteur, s'il s'irrite, « Votre affaire viendra en son temps, lui répond-on. Elle suit la filière administrative. » Quand les maçons construisent une maison pour monter les briques ou les moellons du sol jusqu'au dernier étage, ils dressent une échelle, se placent sur les divers échelons et se passent les briques de main en main. Les maçons sont paresseux, mais les entrepreneurs sont rusés. On calcule donc les distances et l'on met juste le nombre d'hommes nécessaires, ni trop ni trop peu, pour que les matériaux arrivent rapidement à leur destination, avec le moins de fatigue possible pour les travailleurs, afin qu'ils travaillent lentement. La filière administrative au ministère de l'Équilibre était au début quelque chose d'analogue. L'organisation du travail divisée pour arriver à une somme de travail plus grande et plus rapide. Mais les hommes de génie qui ont créé l'administration de l'Équilibre comptaient sans les abus. Chaque année est venue ajouter un rouage inutile à la machine. La centralisation, géant aux 1 000 bras, a tout absorbé et tout compliqué. Aujourd'hui, la filière est un labyrinthe inextricable dont il est difficile de sortir sans fil conducteur. Une affaire est présentée à un bureau. Vous croyez peut-être qu'elle va s'y traiter, point. S'y préparer au moins, mais pas encore. Nous avons, s'il vous plaît, quelques petites formalités à remplir. Oh, mon Dieu, moins que rien. Il faut d'abord prendre l'avis de 30 autres bureaux. Et quand on a colligé ces 30 avis différents, un grand pas est fait. Nous entrons dans une phase nouvelle. Il s'agit maintenant de consulter les fonctionnaires spéciaux, commissionnés ad hoc. Nouveau délai, autre consultation. Des incidents sans nombre peuvent surgir, mais passons et supposons encore ce temps d'arrêt franchi. Voici enfin le bureau, saisi régulièrement avec toutes les pièces à l'appui. Il va s'occuper de vous, mais patience, il s'en occupera quand votre tour sera venu. Enfin il est arrivé, votre tour. On traite l'affaire, on en décide. Oh, ce n'est point encore fini. Le bureau propose, mais le chef dispose. Et quand le chef a disposé, il faut encore que le chef de division confirme. Après quoi, vous avez grande chance de voir enfin la chose aboutir, à moins que l'autorité supérieure ne juge qu'on a fait fausse route, auquel cas, tout est à recommencer. Caldas connut à fond la filière administrative à l'occasion d'un sien cousin qui, depuis 7 ans, activait au ministère de l'Équilibre la liquidation d'une indemnité. Comme ce cousin était pressé, comptant là-dessus pour manger, il venait dans les bureaux tous les 2 jours. Par bonheur, il rencontra Romain, qui en moins de 5 semaines obtint une solution. L'argent arriva fort à propos. Le cousin étant mort de faim la veille, il servit à le faire enterrer. Autrefois, lorsque les chemins de fer n'avaient pas détrôné la malle pour le transport des dépêches, les maîtres de poste et les postillons distinguaient 4 espèces de chevaux. D'abord le cheval emporté. Celui-là s'épuisait en effort, tiré comme un diable à plein collier, aux montées, aux descentes, toujours et partout. Il rentrait à l'écurie, trempé d'écume et de sueur, il durait peu. Pour modérer son ardeur, on tapait dessus. Ensuite, le cheval quinteux. Il tirait ou ne tirait pas, suivant son caprice. Il faisait un mauvais usage. On tapait dessus. Puis la rosse. Oh, ça, c'était un mauvais cheval qui ne tirait jamais. Il succombait bientôt au mauvais traitement. On tapait dessus. Enfin, le bon cheval. Il tirait quelquefois, quand il ne pouvait faire autrement, mais il avait toujours l'air de tirer. Il allait d'un train égal, la tête basse, regardant sournoisement le cheval quinteux qu'on rouait de coups et le cheval emporté qui faisait toute la besogne. Il rentrait à l'écurie sans un poil mouillé. Eh bien, il était considéré, on lui donnait double ration d'avoine. Il durait 10 ans et on ne tapait pas dessus. 4 bons chevaux attelés à la malle et la malle n'aurait pas roulé. Cette parabole peut s'appliquer à l'administration de l'équilibre, si ce n'est que jamais elle n'a tué employé de travail. Sa conscience à cet égard ne lui reproche rien. Donc, à l'équilibre, on divise aussi les bureaux en 4 classes. L'employé fervent, il a encore le beau feu de ses débuts. L'employé tiède, il se soucie médiocrement de l'administration et le laisse voir. Le mauvais employé, il a jeté son bonnet par-dessus les moulins et ne compte plus que comme un zéro. Et le bon employé, il est, pour tout ce qui touche l'administration, d'un désintéressement sublime. Il se soucie de la besogne comme de colle à tampon. Mais, comme le bon cheval du maître de poste, il a toujours l'air de tirer. Il est considéré, il a l'estime de ses chefs, et, ce qui lui plaît davantage, des gratifications au jour de l'an. Caldas, depuis l'affaire Saint-Adolphe, passait pour un employé tiède, et sans doute pour l'encourager à rentrer dans le droit chemin, on le désigna pour faire partie du « bureau des mauvais sujets ». Le bureau des liquidations jouit, depuis la fondation de l'équilibre, de la plus détestable des réputations. Il est convenu que, du matin au soir, les employés y font une vie d'enfer. À une certaine époque, ce service n'était composé que de vieillards tristes et laborieux. Mais telle est la force du renom, que ces pauvres diables passaient pour des diables à 4. Ils sont aujourd'hui remplacés par une majorité de jeunes gens qui ont à cœur de ne pas faire mentir la tradition. Ce bureau est le salon de conversation du ministère. C'est le rendez-vous des oisifs. On y cause, on y joue au bouchon, on y fait la partie de piquet, on y boit de la bière toute la journée. Là s'organisent les pique-niques, se machinent les mauvaises plaisanteries, s'élaborent les charges. On y blague l'administration à outrance. On y parle politique avec de grands éclats de voix. Et souvent on s'y prend aux cheveux. En dépit du tapage, des conversations à 12, des visites continuelles, des chansons en chœur, des batailles, la besogne marche fort bien dans ce bureau, le plus chargé de tous les ministères, et le seul qui est à traiter des affaires sérieuses et délicates. Le chef de ce bureau est le plus formaliste des hommes. Les honneurs administratifs lui ont monté au cerveau, et il porte la tête comme un Saint-Sacrement. C'est lui qui fait toujours faire antichambre un quart d'heure à tous ses subordonnés, surtout à son sous-chef, afin de bien établir la ligne de démarcation. Il est au plus mal avec ses employés, dont il a vainement essayé de réformer la tenue. Il évite d'entrer dans leurs pièces. Il est vrai que, s'il y pénètre quelquefois, la présence de cet homme digne n'arrête ni les jeux ni les ris. Sa figure glacée ne les intimide pas plus que les mannequins dans les cerisiers effarouchent les oiseaux. Le sous-chef de ce service passe sa vie à porter des paroles de paix des employés au chef de bureau et réciproquement. Il discute les trêves et les armistices. C'est le négociateur juré. L'entrée de Caldas dans ce bureau inaugura une recrudescence de visites et par conséquent de vacarme. Il amena toute sa clientèle. Jouvard, l'aimable Sansonnet, et les bureaucrates, tant pis et tant mieux. Géondo, Basquin, qui venait 4 fois par jour, et bien d'autres encore. On comptait sur le rédacteur du Bilboquet pour organiser des scies désopilantes. Mais il se trouva que Romain goûta modérément les excellentes plaisanteries de ses collègues. Il venait de faire mourir de chagrin un pauvre vieil employé égaré parmi eux. Ils étaient en train d'en envoyer un autre à Charenton. Le vieillard, qui avait succombé aux farces de ces messieurs, était un brave homme isolé, sans famille, qui n'avait que sa place pour vivre. Il n'était pas fort, et les employés, qui tous pétillent d'esprit comme on sait, sont impitoyables pour les pauvres d'esprit. Le père Germinal, comme on l'appelait à l'équilibre, devint leur souffre-douleur. On commença par de petites tracasseries, on trempait ses plumes dans l'huile, on mettait du sable dans son écritoire, on lui attachait des queues de papier au collet de sa redingote, on cousait les poches de son paletot. Si parfois il s'endormait, on l'éveillait en sursaut en arrosant d'eau froide son crâne dénudé. Mais comme il souffrait en silence, comme il n'osait se plaindre, on passa à des charges plus fortes. On lui persuada que l'administration était décidée à supprimer son emploi. Le pauvre homme n'avait pas droit à la retraite. De ce moment, il ne vécut plus. Et comme ses tristesses et ses inquiétudes n'étaient pas encore assez risibles, on s'arrangea de façon à lui faire croire qu'il avait à l'équilibre la réputation d'un mouchard. 60 employés au moins qui avaient reçu le mot trempèrent dans cette excellente bouffonnerie. Tout d'abord, on battit froid au père Germinal. On se taisait quand il entrait. On chuchotait en sa présence. On affectait de le regarder avec défiance. On évitait sa société. Inquiet de ses procédés, le bonhomme s'enhardit jusqu'à en demander la cause à celui de tous ses collègues qui l'effrayait le moins. Celui-ci haussa les épaules. « Oh, vous savez bien ce dont il s'agit !» lui répondit-il avec mépris. « Moi, je vous jure que je ne sais rien. »« Allons donc !» reprit l'impitoyable farceur. « On sait que vous êtes la créature de notre chef, et on n'ignore pas que vous lui faites des rapports sur nous. » Cette révélation consterna Germinal. Il se voyait, lui innocent, accusé d'infamie, odieux à tous et perdu de réputation. Pendant 4 ou 5 jours, à moitié fou de douleur, il n'osa plus reparaître au ministère. La réprobation générale l'épouvantait. Enfin, un matin, il se décida à venir. Fort de sa conscience, il voulait se disculper. Devant tous ses collègues, il entreprit, d'une voix émue et les yeux pleins de larmes, de prouver l'injustice des soupçons dont il était victime. Son plaidoyer fut vraiment grotesque, mais ne désarma personne. On lui répondit qu'on n'était pas dupe de ses pleurnicheries. Un déplaisant l'appela « Vieux Judas !» Sur ce mot, il sortit au milieu des huées, rentra chez lui et se pendit. Mais bien, ce résultat n'a pas refroidi complètement les farceurs. Et c'est maintenant après M. Givraud qu'il s'acharne. M. Givraud, qui est aussi naïf que feu germinal, donne tête baissée dans tous les panneaux qu'on lui tend. Voici la dernière mystification dont il a été victime. On en rit encore à l'équilibre. Un matin, un des employés du bureau arrive avec un journal dans sa poche. Le feuilleton de ce journal rendait compte d'un concert donné par un célèbre flûtiste qui porte le même nom qu'un chef de division de l'équilibre. « Messieurs, commença cet employé, vous savez que notre chef de division est de première force sur la flûte. » « Ah bah !» fit Givraud. « Comment vous ignorez ?» continua le farceur. « Mais hier soir, il a donné un concert à la salle Hertz et a obtenu un succès étourdissant. Lisez ce qu'en dit M. Scudo. » Le journal passa de main en main et arriva jusqu'à Givraud, qui de sa vie n'avait été si étonné. « Messieurs, proposa alors un camarade en présence d'un tel triomphe, il est, je crois, de notre devoir de complimenter notre chef de division. »« Mais croyez-vous ? » demanda Givraud. « Mais nous n'en douterons pas !» s'écrièrent tous les autres. « Et dans l'intérêt de notre avancement, chacun de nous doit aller à son tour le féliciter. » Tous sortirent en effet l'un après l'autre. En revenant, tous déclaraient que le chef de division avait paru extrêmement sensible à leur démarche. Givraud veut faire comme tout le monde. Il court au bureau du chef de division, insiste auprès du garçon pour être admis, et a le bonheur enfin d'y pénétrer. « Ah, monsieur !» s'écrie-t-il dès le seuil. « Permettez-moi de joindre mes félicitations à celles de mes collègues. Quel admirable talent vous avez !» « Que voulez-vous dire ?» demande le chef surpris. « Oh, ne vous en défendez pas !» continue Givraud d'un air fin. « J'y étais, je vous ai vu. Oh, quelle embouchure, quelle doigté !» Le chef de division tombait des nues. « Oh, c'est plus fort que tu loues !» reprend Givraud, et faisant le geste d'un homme qui joue de la flûte. « Monsieur, laissez-moi vous le dire, vous en pincez comme personne. » Le chef, qui n'est pas patient, convaincu que l'infortuné est ivre ou fou, sonne et le fait mettre dehors. Givraud revient au bureau, fort piteux, et ses camarades lui prouvent qu'il aura blessé son supérieur par quelques flatteries grossières et maladroites. Il le croit. Et au prochain concert, il compte bien s'y prendre plus délicatement. Le premier jour de son entrée au bureau des mauvais sujets, Caldas trouva que ses collègues étaient vraiment trop gais. Le soir, pressé de sortir, il voulut prendre son chapeau, mais les bords lui restèrent à la main. On avait mis au fond un poids de 10 kilos. Caldas goûta peu la charge, mais il ne dit rien. Le lendemain, comme il entrait, un carton préparé à l'avance et rempli de poussière lui tomba sur la tête et faillit l'éborgner. Il trouva la plaisanterie mauvaise, s'épousta, s'essuya, mais ne dit rien. Dans la journée, ayant eu soif, il voulut boire un verre d'eau et avala d'un trait une rasade d'eau bouillante. Il fut sur le point de se mettre en colère, pourtant il ne dit rien encore. Au moment de partir, il ne trouva plus son paletot. Tous les camarades avaient filé sournoisement. Après avoir cherché une heure, il fut réduit à regagner son domicile, avec son habit de travail, une loque immonde. C'en était trop. Et comme il n'aime pas les disputes, il arriva de bonne heure le jour suivant, et au premier qui entra, il donna une paire de calottes. Mais le caloté était le seul qui n'eût pas trempé dans la plaisanterie. Aussi fit-il des excuses à Caldas, qui daigna s'en contenter, mais passa dès lors pour un mauvais coucheur. « Vous n'avez vraiment pas le mot pour rire, » lui dit un de ses collègues. « On croirait jamais que vous êtes rédacteur du Bilboquet. » Cependant, cette histoire de soufflet fit beaucoup pour la gloire de Romain, et, ce qui vaut mieux, elle assura sa tranquillité. Les farces ne s'adressèrent plus à lui. Une des grandes occupations du bureau des liquidations, lorsque la charge n'est pas à l'ordre du jour, c'est la politique et la discussion des affaires publiques. La question italienne et la politique de M. de Bismarck ont été étudiées et traitées à fond. On s'y intéresse même aux événements intérieurs. On y a discuté les moyens de défense de Troppmann, et on ne crée pas un impôt nouveau sans que des orateurs s'inscrivent pour ou contre. Toutes les opinions, d'ailleurs, et même toutes les nuances d'opinion, y ont leurs représentants. En cherchant bien, on y trouverait quelque adhérent des vieux partis, si jamais les vieux partis ont existé ailleurs que dans les causeries littéraires de Sainte-Beuve. Il y a des hommes des anciens régimes, et c'est là le plus bel éloge qu'on puisse faire de l'administration de l'équilibre, qui permettent à chacun d'avoir une opinion, pourvu que personne ne s'en aperçoive. Caldas n'a pas d'opinion, ou plutôt il s'en est composé une de fantaisie qu'il développe avec beaucoup de vivacité et de profondeur. Il s'intitule philosophe aristocrate socialiste. Il est d'ailleurs tolérant et peut causer de quoi que ce soit sans devenir rouge de colère et sans appeler son adversaire « navet », comme a l'habitude de le faire M. Louis Veuillot. Ainsi, au bureau de liquidation, le prenait-on volontiers pour arbitre lorsqu'on n'était pas d'accord, et on n'était jamais d'accord. La divergence des opinions de ces messieurs s'explique. Deux se cotisent pour s'abonner au temps. Il y en a un qui ne lit que la Gazette de France. Le plus riche reçoit le journal des débats. Un autre achète le siècle. Celui-ci adhère au constitutionnel, cet autre à l'ami de la religion. Un dernier n'a d'opinion qu'une fois par semaine, et cela tient à ce que l'électeur libre est un journal hebdomadaire. Tous se feraient hacher, menus comme chair à pâté, pour soutenir le dire de leur feuille. Parole imprimée est pour eux parole d'évangile, et tout rédacteur est un prophète. Il y a trois employés que la politique touche médiocrement. Un, qui n'y comprend absolument rien, c'est le plus intelligent de tous. Et deux, qui ont bien d'autres choses à fouetter. Caldas avait remarqué, chez l'employé qui ne comprend rien à la politique, des allures mystérieuses. Il le voyait tirer de temps à autre un petit cahier de son tiroir et y inscrire quelques notes à la dérobée. Son cahier ne le quittait pas. Chaque fois qu'il avait l'occasion de sortir, fût-ce 20 fois par journée, il le mettait ostensiblement dans sa poche en disant « Au revoir, messieurs !» Romain, intrigué, résolut de pénétrer cette ténébreuse affaire, et après 3 semaines de flagorneries audacieuses, l'homme mystérieux lui ouvrit son cœur et son carnet. Cet employé assimile le ministère à une ménagerie, et il passe sa vie à chercher des analogies entre ses camarades et les divers animaux de la création. Il est convaincu que si on trouvait son cahier, il serait destitué par son chef et lapidé par ses collègues. De là, toutes ses précautions. Dans ce cahier, il compare l'orgelin à un ours, coquillé à une huître, nourrissant un perroquet, raflard un hérisson, le cluche a un serpent à lunettes, Basque a un ouistiti, et le caissier du service intérieur un bouledogue et Gérondeau un dindon. Caldas, comme journaliste, y était inscrit en qualité de caméléon, ne fut pas flatté du rapprochement. Aussi répondit-il à ce Van Hamburg de la bureaucratie, qui lui demandait son avis sur ce petit travail. « Bon, je ne vous trouve pas buffon. » L'un des deux employés qui ont bien d'autres choses à fouetter est l'employé qui ne dépense pas ses appointements. Lui, il thésaurise et il place un gros intérêt probablement à la petite semaine. C'est lui qui organise des loteries dans l'intérieur du ministère. C'est une vieille pendule, une lampe, une montre avec la chaîne en jason qu'il place à 1 franc le billet. Il écoule ainsi des rossignols qu'il achète à vil prix. Depuis 20 ans, il est au ministère. Il gagne 2 000 francs d'appointement et entré avec 25 francs pour toute fortune. Il possède aujourd'hui, sans avoir rien volé à personne, un capital clair et net de plus de 50 000 francs. Cet employé a une maîtresse qui lui fait ses pantalons et il porte des souliers vernis en moleskine. L'autre original est un homme bien malheureux, allez. Sa femme est jeune, jolie et coquette, et il est jaloux. Avant de venir au ministère, le matin, il enferme, dit-on, son épouse. Mais ce n'est pas vrai. Et la preuve, c'est que 3 ou 4 fois par jour, il s'esquive et court jusqu'à son domicile afin de s'assurer de la présence réelle de la dame. Il a entendu dire, oh, sur le tête un conte bleu, que certains employés ont dû au charme de leur moitié un avancement rapide. Sa cervelle en a été troublée, et l'année dernière, ayant obtenu une augmentation d'appointement de 65 francs par an, il a fait une scène horrible à sa femme et battu froid à son chef pendant 6 mois. Dans ce bureau des mesurés sujets, Caldas trouva cependant un type et un ami. Le type est l'employé qui a une cousine femme du monde et immensément riche. Il est allé chez elle en soirée une fois il y a quelque 18 ans. Depuis, il fait chaque semaine le récit détaillé de cette fête mémorable. L'ami est l'employé gentilhomme, l'héritier d'un grand nom. Il est venu chercher au ministère un abri contre l'orage. Quels que soient les hasards de son existence, son cœur sera toujours au-dessus de sa fortune. On le trouve fier à l'équilibre. Cela tient peut-être à ce qu'il est bien élevé. Au bureau des mauvais sujets, outre qu'on boit de la bière, on fume du matin au soir. Pipes et cigares, cependant, sont sévèrement proscrits du ministère. De petites pancartes qu'on lit à tous les étages, le long de tous les corridors et dans toutes les pièces, l'apprennent aux visiteurs. Ces petites pancartes sont ainsi conçues. Il est extrêmement défendu de fumer dans l'intérieur du ministère de l'Équilibre. Cet avertissement, comme de juste, n'empêche rien. On cite des chefs incorrigibles qui se renferment pour brûler un cigare. Les employés formalistes ne manquent jamais, lorsqu'ils vont en griller une, dans quelque réduite inaccessible, de laisser sur leur pupitre une note au crayon qui explique leur absence. Même cette note au crayon est le pendant du tour du chapeau. En voici la teneur ordinaire. « Je suis au bureau 73 à prendre un renseignement. » Il n'y a pas d'exemple qu'un chef soit jamais allé vérifier la chose au bureau 73. À l'équilibre, on aime mieux croire que d'aller voir. Autre effet de la défense express. Un jour, Caldas vit s'exprimer de la pipe à un employé que le tabac semblait incommoder. Il pâlissait à vue d'œil. « Mais vous avez tort de fumer, » lui dit Robin. « Je le sais bien, » répondit l'autre, « mais que voulez-vous ? C'est défendu !» On était au 29 décembre. L'espoir de la gratification agitait tous les cœurs. Comme tous ses collègues, Caldas comptait sur la munificence de l'administration. Même il avait d'avance arrêté l'emploi de cet argent. Et ce n'est certes pas par présomption de sa part. Ses droits valaient bien les droits des autres. L'administration, d'ailleurs, ne fait point de jaloux. En bonne mère qu'elle est, elle ouvre sa caisse pour tous ses enfants. Pour les bons employés, la gratification est une récompense. Pour les mauvais, c'est un encouragement à mieux faire. Caldas ne fut ni encouragé ni récompensé. Le jour des étrennes arriva. Romain se mêla à la foule des bureaucrates qui va chaque année applaudir au petit discours que fait son Excellence, Monsieur le Ministre. Il envoya 43 cartes à un nombre égal de sommités de l'administration. Cependant, il ne lui fut pas octroyé un sou. Le pot-au-lait de ses espérances fut renversé. Saint-Adolphe, chef de bureau, avait commis une faute. Caldas fut puni. Rien n'est plus juste. Si Caldas avait fait quelque chose de bien, Saint-Adolphe eût été récompensé. En présence d'un déficit de 150 francs, Romain songeait très sérieusement à s'arracher les cheveux lorsque deux agréables surprises compensèrent ce léger mécompte. Son père lui envoya encore un mandat rouge et sa pièce « Les oisifs » fut mise en répétition au Théâtre Français. Il n'avait donc plus qu'à attendre. Et il attendit, sans trop de contraintes, sans presque sentir l'ennui. Car il avait beau dire, beau faire, le temps critique était passé, il s'habituait. Oui, il s'habituait. Il prenait les allures d'une montre réglée par Breguet. Il ne retardait plus pour arriver le matin, et pour sortir, il n'était pas trop en avance. Il mangeait et buvait à heure fixe, et il y prenait un certain plaisir. Les miasmes du bureau ne le répilaient plus. Tous les dimanches, sous prétexte de respirer l'air pur à la campagne, il allait se promener dans la poussière à Saint-Cloud ou ailleurs. Il avait surpris le secret de travailler sans rien faire. Il pouvait s'occuper énormément pendant 6 heures à écrire 60 mots. Enfin, symptôme plus grave, 2 ou 3 fois il s'aperçut qu'il souriait aux plaisanteries de ses collègues. Avouez-le, monsieur, il était temps qu'une crise décisive se produisit dans son existence. Donc, il était en train de reconquérir la réputation de bon employé, lorsqu'un matin, son garçon de bureau lui remit un petit livre qui lui était adressé sous pli. Sur la première page, il aperçut cette dédicace manuscrite. « À Monsieur Romain Caldas, rédacteur du Bilboquet, hommage de l'auteur. » Cette dédicace était signée du nom d'un de ses collègues. Il tourna le feuillet et lut « Catéchisme de l'employé à l'usage du ministère de l'Équilibre ». Tout d'abord, Caldas crut à une charge. « Celle-ci est drôle, » pensa-t-il. Mais ce n'était pas une charge, ainsi qu'il en put convaincre en poursuivant la lecture du petit livre, dont voici un extrait exact. Demande. Qui vous a créé et mis au monde de l'administration ? Réponse. Son Excellence, Monsieur le Ministre. Comment ? Réponse. Par une simple signature. Pourquoi ? Pour toucher des appointements tous les mois, une gratification au jour de l'an, travailler le moins possible, monter en grade s'il se peut, et mériter ainsi une bonne retraite à la fin de mes jours. Qu'est-ce que, monsieur le ministre ? Un être impersonnel que je ne connais pas et que probablement je ne connaîtrai jamais. Pourquoi dites-vous qu'il est impersonnel ? Parce que le ministre et le portefeuille existent indépendamment de la personne. Expliquez mieux votre pensée. Je reconnais pour ministre l'homme dont la signature peut me donner de l'avancement, que ce soit Pierre ou Paul. Et pourquoi dites-vous que vous ne le connaîtrez probablement jamais ? Parce que nous ne fréquentons pas les mêmes sociétés. Quels sont vos devoirs envers monsieur le ministre ? Respect, vénération, obéissance, admiration, amour sans borne tant qu'il est au pouvoir. Et rien quand il n'y est plus. Et pourquoi cette distinction ? Parce qu'alors je n'attends plus rien de lui et qu'il doit me demeurer étranger. N'avez-vous pas des devoirs à remplir envers d'autres personnes ? Je dois honorer tous mes chefs en raison de ce qu'ils peuvent pour moi. Et comment honorez-vous vos chefs ? Je fléchis le genou devant mon directeur, je salue jusqu'à terre mon chef de division, je me découvre et je m'incline devant mon chef de bureau, je soulève simplement mon chapeau pour mon sous-chef et je le garde sur ma tête pour tout autre. Quels sont vos devoirs vis-à-vis de vos inférieurs ? Exigez d'eux les hommages que je rends à mes supérieurs. Et comment devez-vous vous conduire avec le public ? Je dois être très raide avec lui afin de lui inspirer la plus haute idée de l'administration. Pourquoi lui inspirer la plus haute idée de l'administration ? Afin que le pays ne soit jamais induit en tentation de diminuer le nombre des emplois. Qu'est-ce qu'un emploi ? Une grâce d'État qui permet de traverser en paix avec sa conscience et son estomac cette vallée de larmes qu'on appelle la vie. Tout le monde peut-il remplir un emploi ? Non. Que faut-il pour cela ? Une commission ? Qu'entendez-vous par une commission ? La commission est une feuille de papier revêtue du sceau officiel qui donne le pouvoir pour faire les fonctions bureaucratiques et la grâce pour les exercer dignement. D'où vient ce pouvoir ? De son excellence qui le transmet à ses directeurs avec faculté de le communiquer aux autres. Et comment ce pouvoir se transmet-il de son excellence jusqu'au dernier employé ? Ce pouvoir se transmet comme il s'est transmis en tout temps, par une succession qui n'a point été interrompue et qui continuera dans les bureaux jusqu'à la consommation des siècles. En quelle disposition doit-on recevoir sa commission ? Il y a 4 principales dispositions pour recevoir sa commission. Quelle est la première ? La première est d'être en état de grâce. Quelle est la seconde ? La seconde est d'y être appelé et de ne s'y pas intégrer de soi-même. Et quelle est la troisième ? La troisième est d'être irréprochable dans son écriture. Quelle est la quatrième ? La quatrième est d'être animé du zèle de la gloire de l'administration. Et expliquer ce que c'est que l'administration. L'administration est l'assemblée des fidèles employés qui, sous la conduite des supérieurs légitimes, ne font qu'un même corps dont son excellence est le chef invisible. Et pourquoi dites-vous invisible ? Parce qu'il faut des mérites particuliers pour en obtenir une audience. Et qu'entendez-vous par la gloire de l'administration ? Sa prépondérance universelle. Et comment l'assurez-vous ? En ne permettant pas que jamais on discute ses actes avec les faibles lumières de la raison. Elle doit être vénérée comme l'arche sainte. Hors de l'administration, point de salut. Le catéchisme tomba des mains de Calcas. Voilà, dit-il, un fanatique pour qui l'administration est une religion. Il dit tout haut ce que la France pense tout bas. C'est un signe des temps. Trois mois s'écoulèrent pleins de périls pour Caldas, obligé à la fois d'être présent à son bureau et de suivre les répétitions des oisifs, de ménager la chèvre de l'administration et le chou du théâtre français. Comme il s'en allait en catimini sur les 2 heures au détour d'une galerie, quelqu'un lui sauta au cou. C'était un ancien camarade de collège. « Que fais-tu ici ? » demanda-t-il à Romain.
« Rien. »
« Ah, tu es donc employé ? » ?»« Tu l'as dit, oui, mais toi-même ? » ?»« Eh bien, depuis 6 mois, mon cher, je suis attaché au cabinet du ministre. »«
Ben, je te demande ta protection, » dit Caldas.
« Oh, tout ce que tu voudras, » répondit l'attaché du cabinet. « Mais viens jusqu'à mon bureau, me présenter ta requête, nous causerons mieux qu'ici. J'ai d'excellents londres. »
Romain suivit son ami et pénétra dans un cabinet somptueusement meublé, où l'on ne sentait nullement l'odeur des paperasses.
« Sais-tu que tu es admirablement logé ?» dit-il. « Oh, que veux-tu ? » répondit l'ami. « Il faut bien orner sa prison. » Et comme je travaille du matin au soir...
« Tu travailles ?» dit Romain au comble de l'étonnement.
« On travaille donc quelque part ici ?»«
Ah, ça, mais crois-tu que se fait toute la besogne, car enfin, il se fait de la besogne au ministère. »«
Mais es-tu bien sûr ?»
L'attaché du cabinet haussa les épaules.
« Ah, voilà bien, dit-il, les petites idées de l'employé à 2000 francs. »«
Et je parie d'après ce que j'ai vu, » répondit Romain.
« Ah, tu n'as rien vu, mon cher. Tu n'as pas franchi l'horizon des bureaux. Tes collègues sont des fainéants, je le sais. Mais regarde un peu au-dessus de toi. À l'équilibre, le travail sérieux ne commence qu'au chef de bureau, au sous-chef, quelquefois, par exception. » Et plus on monte, plus la besogne devient âpre et difficile.
Bravo, dit Caldas, est-ce pour moi que tu poses?
Dis-moi tout de suite que l'état-major fait toute la besogne. Mais tu crois rire, tu dis la vérité. Tous nos employés supérieurs, dont vous jalousez les gros traitements, sont en réalité moins payés que vous. Car ils travaillent 10 fois, 100 fois davantage. D'abord, ils se réservent toutes les affaires véritablement importantes, et les autres, celles qu'ils envoient au bureau. Ils sont, les 3/4 du temps, obligés de les refaire. Nos directeurs, nos chefs de division, veillent 1 nuit sur 3. Victimes de la centralisation, tout leur passe entre les mains, et ils sont responsables de tout. Quant au ministre, il travaille à lui seul autant que tout le monde, que tout le ministère.
« Tu m'épouvantes, » dit Romain.
« Alors je retire ma demande de protection. »« Oh, tu fais aussi bien, » répondit l'ami. « Où ma protection te conduirait-elle, grand Dieu, à être sous-chef dans 7 ou 8 ans ? Et moi-même, aurais-je encore une influence dans 6 mois ? Mais que diable es-tu venu faire ici ?
Bien, faire ma carrière, comme tout le monde. Ne puis-je pas prétendre aux plus hauts emplois ?»
« Encore une erreur !» reprit l'attaché du cabinet. « L'administration mène à tout, sauf à ses hauts emplois. Celui qui veut y arriver doit commencer par faire toute autre chose.
Cependant, il y a parmi nous des gens très capables et qui ont tout ce qu'il faut pour parvenir.
Je ne te dis pas le contraire, mais ils ne parviennent pas et ils ne dépassent pas 1 fois sur 1000 le grade de chef de bureau.
Et à qui la faute ?
« Eh, le sais-je ? » ?»«
On les décourage, » reprit Romain. « Ainsi, moi, je connais un simple commis qui ne serait pas déplacé à la tête d'une division, et tout le monde l'avoue. Tu le connais peut-être, un nommé Langelin. On dit qu'il n'arrivera jamais. Personne ne dirait pourquoi.
Bon, moi, je puis te le dire, Langelin est victime d'une lettre anonyme. » C'est le poignard dont s'arment les misérables dans l'administration de l'équilibre. Il n'y a point de position sûre jusqu'à ce qu'on ait atteint les hautes régions. Vous êtes toujours à la merci d'un lâche ou d'un goujat. Mais comment peut-on accorder créance à de pareilles dénonciations? Fit Caldas. On fait une enquête, au moins.
Eh, mon cher, on jette la lettre au feu, mais l'impression reste.
Ceci, dit Romain, est la dernière goutte d'eau. Ma détermination est prise. On joue demain une pièce de moi aux Français. Si je ne suis pas outrageusement sifflé, je donne ma démission.
Comment, la pièce qu'on donne demain, les oisifs, c'est de toi? T'as réussi à te faire jouer à la Comédie-Française?
Oui, j'en suis surpris moi-même, mais c'est ainsi.
Alors, mon cher garçon, ne te plains jamais de l'administration. Tu vois bien qu'elle mène à tout.
C'était le lendemain de la première représentation des oisifs qui avait obtenu un immense succès. Caldas, que l'émotion avait empêché de dîner la veille, déjeunait de bon appétit entre Mademoiselle Célestine et Saint-Adolphe. Sa modeste chambre d'hôtel garnie était la salle du banquet, mais le menu avait été fourni par Chevet. Saint-Adolphe avait la parole.
« Savez-vous, disait-il à son collaborateur, que votre succès d'hier soir avance diablement mes affaires? L'Odéon met demain notre pièce en répétition.
Et j'y aurai un rôle ?»
demanda Mademoiselle Célestine.
« Il y en a un, reprit le galant chef de bureau, que j'ai écrit exprès pour vous. Mais revenons à la représentation d'hier. Tout l'équilibre y était, et par ma foi, j'ai lieu d'être satisfait de nos bureaucrates.
« Je parie, dit Mademoiselle Célestine, que chacun d'eux croyait avoir fait la pièce.
« Parbleu, répondit Saint-Adolphe, qui croyait bien avoir fait la moitié du zèle. J'ai vu dans des loges un directeur et deux chefs de division. Goethe a joué devant un parterre de chefs de bureau.
« Est-ce pour cela, dit Romain, que j'ai entendu deux coups de sifflet au troisième acte ?»«
Oh, c'était mon ancien sous-chef, dit Saint-Adolphe. Quel canaille !»«
J'ai idée, reprit Romain, que ce doit être l'inconnu qui a hérité de mon tiroir et n'a pas jugé à propos de me rendre mon troisième acte. Il aura trouvé la seconde épreuve plus faible que la première. Il a fait preuve de goût. »
Mademoiselle Célestine, de sa blanche main, servit le café aux convives.
Caldas prit une feuille de papier et, sous la dictée de Saint-Adolphe, il commença à écrire sa démission. À ce moment, la porte s'ouvrit et M. Krugenstern apparut. Il était radieux aujourd'hui, M. Krugenstern. Il avait eu un billet pour la première représentation. Un billet de famille. Il y avait mené sa femme et ses deux demoiselles. Il avait ri, il avait pleuré, il avait applaudi surtout. Quelque chose de la gloire de Romain rejaillissait sur lui, et il avait dit au foyer, dans un cercle de journalistes, « C'est le boucher que je l'habille !» Aussi, il venait proposer à son client de lui faire 12 habillements complets.
« Oh, prenez garde, dit Romain, posant sa plume. C'est que je quitte le ministère. »«
Chef s'autorise, répondit M. Krugenstern. » La réussite n'a point fait oublier à Caldas son savoir-vivre. Il reconnaît encore ses amis quand il les rencontre. Sa démission, envoyée officiellement par la poste, il se rendit au ministère prendre congé des gens à côté desquels il avait vécu. Monsieur le Campion est le dernier qu'il eut l'honneur de saluer. Cet homme impénétrable se départit en cette circonstance de son mutisme habituel.
« J'ai vu votre pièce, lui dit-il. Elle révèle un grand talent.
Bon, vous avez tort pourtant de quitter l'administration. Votre écriture s'y était beaucoup amélioré. »
Fin.